Marie-Christine Lanier, Art et Affinité. One evening, when I was still living at Grand Street and Monroe, Isamu Noguchi came to visit me. There was nothing in the room, no furniture, no paintings. Un soir, alors que j'habitais encore à l'angle de Grand Street et de Monroe, Isamu Noguchi est venu me rendre visite. La pièce était vide, ni meubles, ni tableaux. Le sol était entièrement recouvert de nattes de jonc. Les fenêtres n'avaient ni rideaux, ni voilage. Isamu Noguchi a dit « Une vieille chaussure serait du plus bel effet dans cette pièce. » Isamu Noguchi said « An old shoe would look beautiful in this room. » John Cage, Indeterminacy, Indétermination, 1959.
One evening, when I was still living at Grand Street and Monroe, Isamu Noguchi came to visit me. There was nothing in the room, no furniture, no paintings. The floor was covered, wall to wall, with cocoa matting. The windows had no curtains, no drapes. Isamu Noguchi said, "An old shoe would look beautiful in this room."
Un assemblage de deux éléments. Bonjour. La voix de John Cage et des accords de piano agencés par David Tudor, pianiste et compositeur qui se trouvait dans une autre pièce au moment de l'enregistrement. Dans Indeterminacy, John Cage lit 90 histoires. La règle de base, chaque histoire doit durer une minute. La vitesse de lecture est donc déterminée par la longueur de l'histoire et lorsque le texte est long, ça sonne comme le rap actuel. Quand il est court, comme celui que nous venons d'entendre, il y a des silences. Un texte affreusement banal, mais lu de manière musicale par John Cage, plus deux, trois accords de piano qui semblent intempestifs, aléatoires. Alors tentons une expérience. Le phrasé d'une voix humaine, celle de Cage avec ses graves et ses aigus, ses accents toniques et surtout ses silences, ce phrasé peut être mis en lien avec une sonate sur piano préparée du même John Cage, compositeur américain qui fut fortement inspiré par la spiritualité hindoue et la philosophie, le bouddhisme zen. La sonate numéro 3, interprétée par le pianiste Cédric Pechia, qui a lui-même proposé ce rapprochement. Sonate que vous allez entendre et à l'écoute de cette sonate numéro 3. Peut-être vous souviendrez-vous du premier mobile suspendu et sonore de Calder, Small Sphere and Heavy Sphere de 1933, dont nous avions parlé il y a 15 jours. Une sphère lourde, en fonte d'environ 2 kg, rouge, et une petite sphère blanche en bois, toutes les deux suspendues à une tige métallique horizontale, elle-même suspendue au plafond. de la Fondation Louis Vuitton. Et lorsque la sphère rouge était activée, comme au billard, la petite blanche était propulsée dans une série d'interactions et de frôlements avec des objets trouvés, des ready-made, posés par terre, dont un gong fabriqué par Calder. La petite blanche s'agitait follement. Elle hésitait, elle repartait. Sa trajectoire était totalement, mais vraiment totalement, imprévisible devant les spectateurs, les visiteurs, médusés, qui n'attendaient qu'une chose, mais qu'elle frappe le gong. Donc ce qu'on attendait, c'était un son, juste cela, pas plus, une résonance. Donc, le phrasé si musical de la lecture de John Cage avec ses silences, plus le mobile de Calder que vous pourriez visualiser, plus cette sonate numéro 3 sur piano préparé de Cage que vous allez entendre, au fond, cela recèle beaucoup, beaucoup d'affinités. Alors écoutez juste les sonorités. Sonate numéro 3 interprétée par Cédric Pechia dans Sonatas and Interludes, paru chez Aeon, A-E-O-N, en avril 2012. Aujourd'hui, troisième volet d'un cycle de trois émissions consacrées à l'exposition de la Fondation Louis Vuitton, intitulée Calder, rêver en équilibre jusqu'au 16 août 2026. En compagnie du compositeur américain John Cage, dont les dates sont les suivantes, 1912, 1992. Il est une figure emblématique de la musique du XXe siècle, surtout connu pour ses innovations radicales en matière de composition et pour son influence incontestée sur l'art sonore contemporain. Je reviendrai tout à l'heure évidemment sur ce qu'est un piano préparé. Alors je remercie vivement Jean-Édouard, le musicien Stéphane et un autre musicien, Jocelyn, qui réalise cette émission. Dans les années 40-50, le poisson devient l'un des motifs d'une douzaine de mobiles suspendus de Calder. Ces poissons sont remplis de débris de verre, de verroterie, d'éclats de verre colorés. Ce sont des mosaïques aériennes qui flottent très lentement. Du moins sont-ils supposés flotter lentement au gré des courants d'air. Et l'air se transforme en milieu aquatique et les effets de lumière dépendent du soleil. Fiche que vous avez sur l'écran de rc.fr grâce à Jean-Édouard. Fiche le poisson, c'est d'abord un cygne, Cygne, un cygne. Une forme schématique de poisson dans l'espace, on retrouve ce trois fois rien, vraiment ce trois fois rien, ce dessin avec du fil de fer de Calder, et à l'intérieur de cette forme vide, j'insiste sur le fait, c'est radical qu'il s'agit du vide en matière de sculpture. À l'intérieur de cette forme vide, Calder accroche des matériaux de récupération, à savoir des éclats de verre colorés, des morceaux de céramique, des boutons, des perles, des goulots de bouteille, trouvés tout à fait par hasard dans une rue de New York ou bien sur une plage. Ce sont aussi des morceaux qu'il fait lui-même en cassant un miroir ou une bouteille. Donc ce qu'il veut, c'est recréer, suggérer les écailles du poisson à partir de débris colorés et lumineux. Et donc, suivez-moi bien, la lumière du soleil va soit se refléter sur les miroirs, soit traverser le verre, hein, et créer comme un vitrail. Alors, les fiches, ce sont des œuvres créées pour être exposées, non pas dans un musée, mais dans un environnement privé, dans une maison qui vit, les fenêtres s'ouvrent, il y a beaucoup plus de courant d'air que dans un musée. Chaque alvéole fonctionne comme une écaille. L'œil du poisson, c'est une spirale métallique avec un éclat de verre rouge ou bleu suspendu à l'intérieur. Et donc ici, Calder a deux manières de créer du mouvement. Grâce à la suspension, il y a un vrai mouvement dans l'espace qui est dû au hasard des courants d'air. Et il y a un autre mouvement qui est plutôt suggéré grâce à une illusion d'optique. Ce sont les effets de lumière qui vont, d'une manière aléatoire, créer une impression de poisson en train d'onduler dans l'espace. Alors évidemment, ce que je regrette, c'est que des courants d'air artificiels n'aient pas été créés à la Fondation Louis Vuitton afin d'animer ces sculptures qui restent donc immobiles. Et j'imagine que ce sont des raisons de conservation des œuvres qui maintiennent ces poissons immobiles. Poissons qui sont à mi-chemin entre la figuration et l'abstraction. On a donc cette dimension de couleur, de lumière, et on s'achemine vers l'ajout d'une autre dimension, celle du son. Et c'est essentiellement par les mobiles sonores que la musique de John Cage résonne avec le travail de Calder. Plusieurs points de rapprochement, me semble-t-il, existent entre leurs œuvres, qui sont d'ailleurs contemporaines. D'abord, premier point, un intérêt chez les deux artistes pour les sons percussifs. Au premier niveau de la fondation, il y a ce premier mobile suspendu dont je viens de vous rappeler l'existence, Small Sphere and Heavy Sphere, avec un petit gong en laiton posé à terre. Et vous aurez peut-être reconnu des sonorités de gong dans la sonate numéro 3 de John Cage. Second lien entre les deux artistes, le recours, c'est crucial, le recours à des objets usuels et leur détournement. Il y a la présence d'objets de récupération dans certaines œuvres de Calder. Je pense à Peacock, le paon que nous avions observé il y a 15 jours, avec des plumes qui avaient été découpées par Calder dans des plaques d'immatriculation. Mais il ne faut pas, surtout pas, surinterpréter le choix de matériaux pauvres par Calder. Il a toujours fait avec ce qu'il avait sous la main, avec ce qu'il trouvait. Et il y a la présence de vis, de boulons, de morceaux de caoutchouc, de plastique chez John Cage, qui sont utilisés dans la préparation d'un piano. Je vais y revenir. Troisième point de rapprochement, le rôle de ce que l'on appelle en Occident le hasard. Pourquoi est-ce que Calder ramasse dans une rue de New York tel ou tel débris de verre pour ses poissons? Pourquoi? À propos des sonates et interludes, on a demandé à Cage pourquoi et comment, mais pourquoi un son boisé ici dans le piano, un son de gong ou bien des sonorités de cloche un peu plus loin? Et il a répondu, je le cite, « Le piano est préparé comme on ramasse des coquillages sur une plage. » En d'autres termes, ce que je comprends, c'est que le coquillage est là, on le prend ou pas. Le choix est là. Et cela dépend, eh bien, cela dépend de ce que l'on appelle en Europe le hasard. Alors, un piano préparé, c'est un instrument de musique complètement nouveau. Et surtout, n'y voyez absolument aucun désir de provocation. Pour ses sonates et interludes, John Cage a laissé une table de préparation précise. Un piano à 88 notes et 49 seront préparées. Donc, un certain nombre de notes vont sonner comme un piano traditionnel. Alors, je vais faire très court. Il y a 3 cordes pour chaque note, d'où la possibilité de glisser un objet entre la première et la seconde, ou entre la seconde et la troisième, ou même, si vous le voulez, à ces deux endroits. Cela va provoquer, vous vous en doutez, un changement de résonance. La note va sonner différemment lorsqu'elle est préparée. On ne la reconnaît plus. Le son est d'ailleurs plus ou moins étouffé. Et d'autre part, aucun piano préparé par un musicien ne sonne comme un autre piano préparé. Donc, la partition de Cage sera jouée différemment à chaque fois. C'est là à nouveau qu'intervient le hasard. Donc, ce qui est totalement paradoxal, c'est que malgré la table de préparation, ce que John Cage demande au pianiste, c'est essentiellement un acte de création. Une phrase de John Cage, citée par le pianiste Cédric Pechia, est la suivante. Alors, je vous la lis d'abord en anglais. If you enjoy playing, the sonatas and interludes, then do it so that it seems right to you. Je vous traduis. Si vous avez du plaisir, si vous aimez jouer cette pièce, sous-entendu et ma musique en général, alors faites-le et écoutez bien de la manière qui vous semble right to you, c'est-à-dire juste ou approprié selon vous. Donc l'interprète a une très grande part de liberté et de responsabilité. Évidemment, les deux vont de pair dans son rôle de pianiste. Avant d'écouter une seconde sonate, je voudrais vous lire ce que le peintre surréaliste André Masson écrivit à propos de l'atelier de Calder à Roxbury en 1942, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez cet atelier sur l'écran de rc.fr. Je vous lis un extrait de ce poème. Bonjour, bonjour forgeron de géantes libellules. Très haut suspendu à la charpente de l'atelier, dans le jour strié, un gong, sensible aux caprices de l'air, n'est frappé qu'avec une extrême circonspection. À pas de colombe, il sonne. Quelle heure sonne-t-il? C'est l'heure du mille-pattes très affairé. C'est aussi l'heure de l'enfant aux cerises. Ici, les secondes n'ont pas le poids de l'horloge. Elles ne sont pas non plus couchées dans un herbier. Elles ne conçoivent pas l'immobilité. Elles aiment le bruissement des roseaux et le cri du crapaud qui sait si bien respirer en musique. Elles jouent entre tes doigts, Calder, mon ami. Il a ajouté qu'il était réveillé la nuit par les gongs de Calder. Et alors, il se retrouvait propulsé dans un autre espace-temps. Je vous relis ce vers d'André Masson. Ici, les secondes n'ont pas le poids de l'horloge. John Cage n'est pas l'inventeur du piano préparé. Des essais avaient déjà été faits par Eric Satie, compositeur pour lequel John Cage eut une profonde admiration, quasi méprisé en France comme un artiste trop facile. Satie avait demandé qu'on insère une feuille entre deux cordes pour avoir un son plus métallique. Mais John Cage est le premier à avoir été au bout de la recherche. Alors un piano préparé, c'est une façon percussive de traiter cet instrument. Et John Cage fut, entre autres, un pianiste et un percussionniste. Il faut 2 à 3 heures pour préparer un piano afin de jouer les sonates et interludes qui sont l'aboutissement des recherches de Cage sur le piano préparé. L'ensemble fut composé entre 1946 et 1948. L'œuvre se compose de 16 sonates et de 4 interludes. Les sonates sont de forme AA', BB'. C'est-à-dire A étant la première partie, qui est reprise différemment en A', en y ajoutant des ornements, donc on attend la reprise. Et ensuite vient la partie B, qui est la nouvelle et qui va être elle aussi répétée en B'. Je précise, c'est très important que John Cage avait d'abord préparé son piano, donc un instrument complètement nouveau. Il l'avait d'abord préparé avant d'écrire ses partitions. On va écouter la sonate numéro 5, toujours interprétée par Cédric Pechia. Vous allez entendre au départ, elle est assez courte d'ailleurs, comme les autres sonates, vous allez entendre au départ à la main gauche un ostinato, c'est-à-dire un mouvement continu. Et vous aurez peut-être cette étrange impression de vous retrouver en pleine brousse avec des sonorités de tam-tam. Ça ne sonne plus du tout, mais du tout, comme un piano. Et à la main droite, vous allez percevoir une sorte de petite mélodie. Écoutons Cédric Pechia analyser cette musique tellement rythmée sur RTS, la radio-télévision suisse, tout en jouant sur les touches du piano qu'il a préparé.
Si je jouais ça à un octave plus bas qui n'est pas préparé, on entendrait quelque chose comme ça. Donc ça sonnerait simplement un peu plus haut. Il se trouve que là... Donc ça, c'est l'ostinato de la main gauche. Ensuite, on a une forme de mélodie, si on peut appeler ça comme ça. Là, on n'est pas tellement éloigné de certaines sonates de Scarlatti. J'ai dit que c'était un des modèles de John Cage pour ce cycle. Alors, on a vraiment une main gauche qui accompagne et une forme de petite mélodie à droite, chromatique. Alors là aussi, on égrène les notes les unes après les autres. Si on transposait ça, ça ferait... Il se trouve que ça sonne non plus vraiment comme un piano, quoique certaines notes peuvent... Là, celle-ci, elle sonne tout à coup comme un piano et elle revient, elle est relativement insistante. Donc ça, maintenant les deux mains mis ensemble, l'ostinato et la petite mélodie. Là, encore une fois, on est extrêmement libre au niveau du phrasé, parce qu'il a écrit aucun phrasé, c'est-à-dire aucun legato, aucun staccato. Et là, j'ai dit à un certain moment à quel point un piano préparé pouvait sonner de manière tellement différenciée s'il est joué par différents pianistes. Et aussi, je pense, au niveau de l'articulation, ça peut être très différent. Je vais vous montrer simplement la main droite, une fois vraiment purement staccato. Et maintenant, legato, ce qui est vraiment laissé à l'interprète. Alors, c'est beaucoup plus mélodique tout à coup. On a moins cet aspect percussif et on peut parfois même mélanger un peu les deux, faire un peu staccato, un peu legato. Par exemple, donc là, on a vraiment extrêmement de possibilités de mettre des accents. Et de toute façon, cette note va toujours sonner accentuée parce qu'elle est moins préparée, disons, elle a cette couleur. Donc, je disais ostinato et main droite. Et tout ça fonctionne bien bravement, si on peut dire, jusqu'à la troisième ligne. Très vite, on a compris la structure rythmique. Alors vraiment, 1, 2, 3, 4, là, c'est vraiment très, très clair. Et on arrive dans ces moments où tout à coup, les gens qui tapent du pied sont un peu... Y a un petit peu une
ça confusion. Cloche.
Ça cloche parce qu'on est là... Tout. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc là, il y a comme un petit peu troublant. Ensuite, on recommence. Et ensuite, mais alors à ce moment-là, c'est assez fascinant parce qu'il y a des notes qui restent isolées. L'ostinato, c'est comme s'il se dilate petit à petit. Alors je rejoue à partir de la quatrième ligne. Et là, il demande vraiment de faire un silence avec la main gauche pour qu'on entende tout à coup cette note qui était un petit peu couverte par l'ostinato. On entend qu'elle est bien là, en fait. Elle était vraiment masquée. Et ensuite, ça continue. Tout ça est extrêmement rhétorique. On a l'impression qu'il est en train presque de parler. Il parle, en fait, tout simplement. Il est en train de convaincre quelqu'un. C'est vraiment comme ça. Non, tu es sûr? Ah oui. Vraiment? Oui, je t'assure. Par exemple, je veux dire, de manière très très basique, c'est beaucoup plus complexe que ça naturellement. Mais on a, encore une fois, c'est l'ostinato et la mélodie. Et tout à coup, ces sons et, de manière très très belle, je pense, les sons longs sont des sons qui sont préparés, mais préparés, que je appellerais discrètement. On entend encore le son de piano, comme un souvenir d'un piano qu'on aurait entendu quelque part. Et si on les prend en dehors du contexte de ce mouvement très rapide, là, il a écrit 92 à la blanche. Il se peut que je sois un petit peu au-dessus du tempo. Mm-hmm. Je n'ai pas contrôlé exactement, mais je suis peut-être un peu rapide par rapport. Mais je crois que c'est bien adapté. Mais si je joue, alors à partir de la deuxième ligne, seulement la main droite.
Et maintenant, écoutons cette cinquième sonate enregistrée en disque. Vous entendrez la vibration de la dernière note, une note qui va prendre tout son temps pour disparaître et entrer dans le silence.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Les gongs de Calder revisitent ce très ancien instrument sous la forme de mobiles suspendus sonores. Plusieurs sont suspendus au deuxième niveau de la fondation. Vous en avez un exemple sur l'écran de rc.fr. Red Disc and Gong, disque rouge et gong 1940. La forme circulaire en laiton est frappée par son marteau sous l'action d'un souffle d'air. Alors parfois le gong est absent et ce sont les éléments du mobile suspendu qui sont frappés par plusieurs maillets, un par élément, et ces maillets en réalité, ce sont soit une petite boule de fil de fer, soit ce qui ressemble à la tête d'une baguette de batterie dans un orchestre. Et alors, le mobile vient créer comme un glissando au gré des courants d'air, au gré des mouvements de l'atmosphère. Alors, à la Fondation, on attend, mais il ne se produit jamais rien. On aimerait entendre un son, mais les souffles d'air ne sont pas assez puissants. Il faut vraiment qu'il y ait du vent, des bourrasques de vent, pour que ces mobiles créent de la musique. Lors des premières expositions, Calder activait lui-même les gongs. Il pouvait donner un coup assez franc pour qu'il crée une note et qu'on entende sa résonance. De plus, lorsque le mobile est constitué d'éléments de couleur vive, le son donc se propageait dans l'espace et le timbre de l'instrument devenait un écho synesthésique des couleurs du mobile. Là encore, Calder était très expérimental et proche de Cage qui a beaucoup travaillé surtout à partir de 1950 avec le hasard. Et ici, c'est au gré du hasard, c'est-à-dire des courants d'air, que le mobile va émettre des sons, des sonorités dans l'espace. Tentons de nouveau un rapprochement entre les deux artistes. Vous allez entendre un son de gong sur une note de piano préparée. La note de piano va être frappée, plutôt répétée trois fois, et vous pourrez en écouter la résonance à chaque fois. Et Stéphane a placé un sol en début de ce que vous allez entendre, un vrai sol qui ne va plus sonner comme un sol très rapidement. Voilà, vous avez pu entendre la transformation. L'Ele of Force, Lys de la Force 1945, qui appartient aux collections de la Fondation Louis Vuitton, c'est un mobile sur pied. C'est ce qu'on appelle, un mobile sur pied. Le pied n'est pas la forme triangulaire noire que l'on aperçoit à la base, une forme évidée, le pied est encore en dessous. Tous les éléments tiennent grâce à lui. Cette forme évidée, horizontale, noire, en équilibre, est traversée par des tiges métalliques qui s'élancent dans les airs, hein, et de ces arcs métalliques pendent divers mobiles secondaires qui sont plus petits. L'un est orné de feuilles blanches découpées dans de la tôle, puis peint en blanc, est disposé en forme d'éventail, un autre de feuilles rouges, jaunes et blanches. Et le mobile principal, quant à lui, est composé d'éléments noirs qui s'élancent vers le haut, les deux plus hauts, évoquant le lys, d'où le titre, Lily of Force. Et l'œuvre suggère à la fois des fleurs, donc, et pour cette forme horizontale en bas, un nénuphar. Cette œuvre haute de plus de 2 mètres a été créée aux États-Unis, exposée à Paris. Elle a été envoyée par la Poste. Il faut vous dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, le système de poste international aura été complètement repensé. Et cela fascinait un ami de Calder dont je vous ai déjà parlé, l'artiste français Marcel Duchamp. Il en parle à Calder et lui propose alors d'organiser sa première exposition d'œuvres à Paris après la Seconde Guerre mondiale à la Galerie Louis Carré. Alors, il y avait évidemment des restrictions sur la dimension des paquets et c'est alors que Calder va mettre au point des œuvres totalement démontables. Je veux dire, et c'est cela qui est très intéressant, avec une pensée humaine, de l'intelligence humaine, c'est qu'il va faire de ses contraintes un atout et créer des sculptures de plus grande taille, mais démontables. Donc les grands mobiles de Calder pouvaient être expédiés en plusieurs colis, puis être remontés sur place en galerie. Et Sartre avait rédigé le catalogue et fait un lien avec l'Orient, je le cite, « La section la plus haute de ce mobile, donc Lily of Force, se compose de 2 formes noires évoquant des lys, ainsi que de 2 autres éléments suspendus, tous noirs, rappelant les joncs et les roseaux de l'art japonais. » Et c'est peut-être la raison de la présence de cet exceptionnel mobile sur pied sous les gongs aériens. Enfin, un autre type de sculpture, cette fois-ci des sculptures fixes qui peuvent être accrochées au mur, parfois très haut, ou bien posées. Ce sont les constellations qui datent des années 40 également. Vous avez constellations avec cadran solaire sur l'écran de RC.fr. Calder va utiliser des éléments en bois, des petits éléments dans des pièces qui sont majoritairement composées donc de ces éléments en bois peint, surtout de formes biomorphiques et reliées en réseau par de fines tiges métalliques. Donc je vous le disais, plusieurs pièces s'accrochent en haut du mur. Calder disait que lorsqu'il rendait visite à ses amis, eh bien, ils avaient des tableaux sur les murs, mais qu'au-dessus, les murs étaient blancs, donc beaucoup d'espace vide, inoccupé. Alors, pourquoi du bois? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait, dans les années 40, une pénurie de matériaux. Tous les métaux sont utilisés pour l'armement pendant la guerre, et les artistes se sont tournés vers le bois et Calder, vers ces petites formes de bois sculptées à la main. Alors, bien qu'il faille, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, se méfier des titres qui sont très souvent donnés a posteriori, constellation avec cadran solaire forme un petit cosmos. Il n'est pas fixé au mur, mais posé et accompagné de son cadran solaire. C'est un élément vertical qui était posé à même le sol dans l'état initial de la constellation. Mais ce qui est magique chez Calder et donne une clé tout de même à tout ce que l'on voit à la Fondation Louis Vuitton, c'est toujours cette idée de faire de l'art avec 3 fois rien, avec une énorme modestie de moyens. Non seulement les formes sont très simples, mais les matériaux sont ordinaires. Les couleurs ne sont pas très travaillées, vous n'aurez jamais de vieux rose, de vert anglais dans une œuvre de Calder, mais c'est du blanc, du jaune, du rouge, du noir. Le langage le plus simple possible, et à partir de ce 3 fois rien, il arrive à créer a créé déjà et a suscité une sorte de jubilation. C'est peut-être le mot qui convient. Une sorte de jubilation qui aura permis de toucher, d'émouvoir ses premiers collectionneurs. Encore une fois, quand vous regardez une constellation, vous pourriez penser à un planétarium qui serait beaucoup plus sophistiqué. Donc une œuvre comme celle-ci, j'insiste beaucoup, une œuvre comme celle-ci pose frontalement le problème de ce que l'on considère au XXe siècle, dès le XXe siècle, comme une icône. Je veux dire que des musées, des collectionneurs dans le monde entier vont se battre pour une œuvre comme celle-ci, alors qu'à première vue, on pourrait se demander quel rapport cela peut bien avoir avec de l'art. Sérieusement, vous trouvez cela, cette constellation dans votre grenier, mais qu'est-ce que vous en faites? Voyons, soyons honnêtes. Donc cela soulève des questions. Et puis autre question que je vous pose, mais je me garderai bien d'y répondre. Qu'est-ce qu'il y a d'américain dans cela? Est-ce que c'est de l'art américain, selon vous? Ou bien est-ce que c'est également de l'art universel? Vous savez, un américain, c'est très simple. Hein? En peinture, quand il met du vert dans une peinture abstraite, le vert, c'est de l'herbe. Le bleu, c'est de l'eau. Et puis quand il y a de l'ocre rose, c'est de la chair humaine. Et il laisse aux Européens le loisir de philosopher et d'être des intellectuels. Mais c'est toujours très simple. Et chez Calder, c'est très, comment dirais-je? J'allais dire enfantin, non, mais c'est très sincère, c'est très troublant. Alors, lorsqu'il compose le cycle de ses sonates et interludes, John Cage, dans les années 46-48, s'intéresse à la pensée orientale et au bouddhisme zen, ce qui l'amène, c'est pour cela que je vous racontais tout cela, que je divaguais un peu, ce qui l'amène à s'interroger sur ce que les Occidentaux nomment un acte de création. Et il se rend compte que c'est une recherche, c'est son avis, il se rend compte que c'est une recherche constante de nouveauté, une quête d'inconnu, et ça lui apparaît comme une fuite en avant. Alors, 16 sonates et 4 interludes, ces chiffres sont divisibles par 4. Selon les spécialistes de Cage, c'est à mettre en relation avec les 8 émotion permanente d'une tradition esthétique indienne qui s'appelle Rasa, R-A-S-A. C'est une tradition qui existe depuis des milliers d'années et Rasa, cela signifie l'essence de quelque chose. Alors, il y a eu 8 émotions principales, 4 émotions positives, le côté héroïque, l'amour ou l'érotique, le merveilleux ou la capacité de s'émerveiller, là on rejoint Calder, la joie, on rejoint Calder également, et 4 émotions plutôt négatives, le chagrin, la peur, la colère, la haine. Et la 9e émotion, ça c'est le Graal, la 9e émotion est l'état que l'on recherche dans le bouddhisme zen et aussi la tradition philosophique hindoue, à savoir la tranquillité, qui serait de couleur blanche, parce qu'en plus, il attribue une couleur à chaque émotion. Donc, on atteint le stade de la tranquillité intérieure après être passé par toutes les autres émotions. On atteint une forme de quiétude. Chaque pièce des sonates et interludes aurait donc une émotion prédominante. Son essence, son caractère propre. Et non seulement chaque pièce, mais jusqu'à chaque segment de musique à l'intérieur d'une même pièce. Alors, je vous propose d'écouter le 4e interlude, interprété par le pianiste Alec Caris pour Bridge Records, 1998. Les interludes ont une forme beaucoup moins stricte que les sonates et ils sonnent un peu plus, ils sonnent un peu comme s'ils étaient improvisés. Je ne sais pas quelle émotion vous associerez à cette pièce, cet interlude numéro 4. En tout cas, il y a des sonorités de gamelan balinais cette fois-ci et chaque note représente, comme dans les constellations de Calder, chaque note va représenter un petit cosmos, un univers en soi. Je vous montre une maquette pour un stabile au rouge, la grande vitesse sur l'écran de rc.fr. Je vous rappelle qu'un stabile, c'est une œuvre fixe, ancrée au sol, pratiquement le contraire d'un mobile. Et c'est une étude intermédiaire pour une commande de la ville américaine de Grand Rapids, dans le Michigan. Un stabile géant qui redéfinit la notion d'art public dans les années 60-70. Et cette maquette nous introduit à ces sculptures monumentales pour des lieux publics. Il y a l'araignée rouge sur le parvis de la Défense à Paris. Ces sculptures géantes seront toujours réalisées avec de la tôle, toujours des feuilles de métal, évidemment avec soudure et dans une fonderie industrielle. La maquette de la grande vitesse est encore à taille humaine. Elle s'approprie l'espace avec beaucoup d'autorité. Elle fend l'air. C'est une sculpture statique, mais qui donne l'illusion de déploiement, voire de déplacement au ralenti d'un animal bizarre, possiblement menaçant. J'observe que les nervures sont très visibles. Calder les utilise pour structurer, dessiner les surfaces plates qui se déploient dans l'espace. J'observe aussi que certains points d'ancrage au sol sont extrêmement fins. Les arêtes sont vives, elles sont tranchantes, et il faut tourner autour d'un stabile pour l'observer de points de vue qui vont être différents. Ces stabiles n'ont pas vraiment de masse. Ils sont dans l'espace, mais ne le remplissent pas. C'est pour cela qu'on a parlé de sculpture dans le vide. Et je termine pour Calder avec Southern Cross. Dans le dernier espace de la Fondation, c'est un standing mobile, c'est-à-dire un stabile mobile, une œuvre composée de deux parties. Stabile pour la partie inférieure, auquel est adjoint un mobile, ici perché au-dessus du stabile, et la scission entre les deux parties est accentuée par l'adoption de deux couleurs différentes. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'on aperçoit, dans ce dernier espace de la Fondation, on aperçoit par une verrière les structures externes de l'architecture de Frank Gehry, qui est l'architecte américain de la Fondation Louis Vuitton, et qui sont parfaitement en résonance avec la sculpture de Calder. On aperçoit les armatures métalliques très puissantes, les nervures plus fines qui relient les grandes voiles de verre du bâtiment de la Fondation. L'architecture de Frank Gehry se caractérise par le mouvement, comme les mobiles de Calder. Il a voulu mettre le bâtiment en mouvement dans la ville. Et si on appréhende le bâtiment dans son contexte, on a la ville de Paris, la ville minérale, et puis le bois de Boulogne, un océan végétal, et puis cette espèce de bâtiment qui s'avance, qui est en mouvement comme un navire au travers du bois de Boulogne, un bâtiment blanc dans un océan vert. Et les voiles de verre sont autour et encadrent le bâtiment. Mais les voiles sont totalement détachées de l'ensemble. C'est une architecture au-dessus, au-delà de l'architecture. C'est ce qu'on voit, mais ce n'est qu'une enveloppe. Et cette enveloppe crée toute l'unité du bâtiment. Donc l'objet fondation se rassemble grâce à ces voiles de verre. Et le mobile noir oscillant de Southern Cross fonctionne un peu de la même façon, avec cette partie mobile qui est aussi au-dessus de sa base rouge, et ce qui donne à voir une maîtrise comparable du mouvement et de l'équilibre au-dessus du pivot. John Cage a composé de la musique très accessible avant 1950. Alors pour clore l'émission, quelques mesures de Dream, le rêve de John Cage de 1948, en écho au titre de l'exposition de la Fondation Louis Vuitton, Calder rêvait en équilibre. Et Dream a été composé pour piano solo, pour accompagner une chorégraphie de Merce Cunningham. Donc il y a avec la chorégraphie cette notion d'équilibre dans l'espace. Essentiellement une seule ligne mélodique de notes qui sont égrenées avec douceur et qui font alterner mouvement ascendant et descendant sur le clavier. La pièce frappe par sa fluidité et les sonorités à nouveau prêtes à la méditation, interprétée par Ivan Illich. Au revoir. Thank you.
Vous venez d'entendre Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lanier. Émission préenregistrée le 18 juillet 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 23 juillet de 10h à 11h et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.